Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h13, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Olivier Bost.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce matin Olivier, vous constatez que beaucoup de monde se projette dans l'après-crise. Alors question, hein, après ça sera mieux ou pire qu'avant, dites-nous.
Une façon de répondre simplement à cette question est de vous dire Yves, ça dépend si vous êtes par nature optimiste ou plutôt pessimiste, parce qu'il y a de tout. Les journaux sont remplis de tribunes sur le monde d'après, des politiques, des philosophes, des historiens, des scientifiques. Imagine ce que seront les lendemains et ce qui devra changer. Et heureusement, globalement, ceux qui y réfléchissent préfèrent envisager le meilleur à leur façon. Parce qu'entre ceux qui défendent l'interventionnisme d'État, d'autres le libéralisme, entre ceux qui prônent le repli, l'écologie, la redistribution ou la grande planification, il y en a vraiment pour tout le monde. À défaut d'être prophétique, le fait de penser au lendemain, ça permet de s'échapper un peu de nos conditions de confinés et puis de nos vies pas forcément ralenties mais bien chamboulées.
Vous êtes en train de nous dire que ça les occupe aussi ?
Oui, et je sais que pour beaucoup, ça peut sembler décalé de se soucier aujourd'hui de ce qui pourrait changer après-demain, ça se comprend. Nous sommes encore en confinement et nous ne savons ni quand ni comment nous allons en sortir. La pandémie pourrait même connaître une deuxième ou une troisième vague. Mais penser au lendemain permet aussi de se changer les idées. Emmanuel Macron, au dernier Conseil des ministres, a demandé au ministre de se préparer à la deuxième phase, la sortie du confinement, à ce jour d'après qu'il a évoqué à chacune de ses interventions solennelles.
Alors que peut-il sortir finalement de toutes ces réflexions, Olivier ?
Tout le monde parle de changements indispensables. Les partis politiques ont lancé leurs réflexions, leurs boîtes à idées. Une soixantaine de députés de la majorité ont aussi lancé ce week-end un site internet façon grand débat. Le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts consulte les militants. Chez les Républicains, ça fait débat pour l'instant entre eux. Mais ils ont déjà tous et pour beaucoup l'idée déjà bien installée que ce sont eux qui ont ou qui avaient raison avant tout le monde. La crise vient valider leurs solutions. La fin de la mondialisation, la fin de la rigueur budgétaire, la redécouverte des services publics. Qu'importe s'ils ont fait l'inverse au pouvoir ou s'ils n'ont jamais exercé le pouvoir, ils ont raison.
Donc il ne faut pas placer trop d'espoir dans les changements à venir, c'est ça ?
Il y aura forcément des changements, mais lesquels ? Ce que décrivent aussi des ministres, c'est la dure réalité de cette crise. Le virus est un puissant révélateur d'inégalités. Ce n'est pas pareil d'être confiné dans sa résidence secondaire en bossant en télétravail, sans se faire trop de soucis pour son emploi. Ce n'est pas pareil que d'être au chômage partiel dans l'angoisse de garder son travail ou dans un métier où les contacts sont permanents. Le spectre d'une crise sociale inédite à cause de la crise économique est dans les esprits. D'où la question pour tous ceux qui cogitent sur les lendemains du coronavirus, assisterons-nous finalement à un retour aux affaires courantes, à une vraie transformation de notre société ou à une saison 2 des gilets jaunes, d'un ras-le-bol qui va exploser ? Le jour d'après Yves est encore loin, nous avons encore un petit peu de temps pour y réfléchir.
On y réfléchit, hein. Merci beaucoup Olivier Bost. On retrouve votre éditorial sur le site rtl.fr et je rappelle à 7h45 Jean-Michel Blanquer qui est l'invité d'Alba Ventura, le ministre de l'Éducation nationale. Question lui sera posée de savoir si notre année scolaire est définitivement terminée.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Bonjour Martin Blachier.
Bonjour.
Vous êtes médecin et cofondateur d'une société d'expertise sur la santé qui propose une hypothèse sur le déconfinement. Ça nous passionne et ça nous concerne tous. On va y revenir dans quelques instants, mais auparavant, je voudrais évoquer avec vous les fameux tests qui ont l'air d'être la condition sine qua non pour le déconfinement. Où on en est de ces tests ? Parfois, ça paraît très compliqué.
Alors, il y a effectivement des nouvelles mesures qui ont été prises qui permettent d'avoir un nombre de tests, je parle des tests PCR beaucoup plus importants, on parle de 500 000 tests.
Vous rappelez ce qu'on appelle les tests PCR, j'allais vous dire en langage courant pour tout le monde ?
Alors, les tests PCR, c'est des tests qui permettent de détecter la présence du virus dans la gorge des gens, à l'inverse des tests sérologiques qui permettent de détecter les anticorps contre le virus dans le sang des gens.
Voilà, dans le second, c'est un test sanguin, et le premier, c'est la fameuse tige dans le nez.
Absolument.
Alors, où en est-on de tous ces tests aujourd'hui et lequel est efficace et pour quelle période de la crise ?
Alors, tous les tests sont efficaces. C'est pas du tout la même chose. Pour l'instant, on parle essentiellement des tests que je dis PCR, c'est-à-dire les tests où on met un badigeon effectivement dans la gorge. Pour l'instant, on s'en servait essentiellement pour tester les gens qui ont des symptômes. Donc, pour vérifier si ces symptômes sont une grippe, un rhume ou alors du Covid-19.
Oui.
Et ensuite, ça permettait d'isoler les gens chez qui on avait isolé le virus pour éviter qu'ils contaminent les autres. C'est un moyen de contrôler l'épidémie.
Est-ce que vous pensez qu'il est matériellement réalisable de tester l'ensemble de la population au moment du déconfinement? Je dis bien au moment du déconfinement, puisque c'est l'idée qui apparaît maintenant.
Moi, je pense pas. Je pense que c'est pas réaliste de baser un scénario uniquement sur le fait de tester la totalité de la population. Je vais même vous dire, je pense que ça répond même pas à la problématique du déconfinement.
Ah oui.
Selon les calculs qu'on fait, il faudrait essentiellement réserver les tests pour les soignants et en particulier les soignants qui seraient en contact avec les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, je pense que le confinement devra se faire par tranche d'âge. J'ai déjà expliqué. L'idée, c'est que dans une première phase, vous allez devoir protéger les gens les plus vulnérables.
Ouais.
Quand vous allez déconfiner la population, vous allez devoir d'abord déconfiner les gens les moins vulnérables pour constituer une immunité de groupe. Ce qui fait que dans un second temps, quand les gens les plus vulnérables vont sortir dans la population, eh bien, il n'y aura pas de pic épidémique, puisqu'en fait, le virus ne pourra plus circuler, puisqu'il y aura trop de gens qui seront immunisés. Et les gens les plus vulnérables, vous les aurez protégés de ce pic. Et en fait, pendant la phase où vous allez avoir des gens qui sont moins vulnérables, qui vont pouvoir être déconfinés selon nous, et des gens plus vulnérables qui vont continuer d'être confinés à domicile pendant un laps de temps, ben pendant ce temps-là, il sera très important que ces gens plus vulnérables ne soient pas en contact du virus. Et tous les gens qui s'occupent de ces gens-là devront être testés pour vérifier que ces gens ne sont pas porteurs du virus et ne vont pas transmettre ce virus à ce groupe de personnes, personnes âgées, mais aussi personnes qui pourraient avoir des comorbidités, dont certaines, on sait qu'elles exposent un sur-risque de syndrome des stress respiratoires aigus par Covid-19.
Alors, ce que vous venez de nous dire est absolument passionnant parce que, un, ça nous permet de nous projeter dans l'avenir et ça fait quand même du bien et qu'on comprend qu'en tout cas, il y a une organisation possible. Est-ce qu'on peut revenir sur les étapes les plus fragiles, alors j'ai envie de vous dire, à partir de quel âge et pour combien de temps, et ceux qui ne le sont pas, à partir de quel âge et pour combien de temps, et quand peuvent-ils ressortir à partir des analyses qui sont les nôtres pour l'instant, si on peut répondre à ces questions?
Alors la première chose à bien comprendre, c'est que tout dépend du taux de personnes immunisées dans la population.
Oui.
Plus vous avez un taux de personnes dans la population qui est immunisée, qui est important, plus le laps de temps sera court. Et tous ces calculs vont faire en fonction du taux. Aujourd'hui, le taux qu'on calcule, c'est 1 sur 100. C'est-à-dire qu'on considère que sur le nombre de cas que vous avez diagnostiqués, qu'on annonce tous les jours à la télé et à la radio, vous multipliez par 100 et à peu près, vous avez le nombre de gens qui sont contaminés. Ce taux-là, c'est un taux qui est calculé à partir des données coréennes, italiennes, allemandes. C'est pas un taux qui a été vérifié, mesuré, et il faut le mesurer. Les tests sérologiques vont nous permettre de mesurer ce taux-là.
Oui.
Une fois qu'on aura ce taux-là, on pourra vraiment définir notre scénario avec les dates et la séquence. Aujourd'hui, avec les calculs qu'on a, c'est une séquence qui devrait durer à peu près 2-3 mois, et avec une seule tranche d'âge, ça devrait suffire. La tranche d'âge qu'on a calculée aujourd'hui, c'est plus ou moins de 65 ans. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont plus ou moins de 65 ans, ça représente à peu près 25 à 30% de la population. Et le restant, 60 à 70% de la population, c'est le taux qu'il faut pour que l'immunité de groupe soit constituée.
Alors formidable, on avance. La barrière d'âge est à 65 ans. Les 2 ou 3 mois dont vous venez de nous parler... Qui serait à 65 ans, bien sûr. Les fameux 2 ou 3 mois, qui fait quoi pendant cette période-là, si je puis dire ? Et avec quelles contraintes ?
Alors, l'idée... L'objectif, ce serait que déjà dans la partie des gens qui vont être déconfinés dans une première phase, il faudrait quand même pouvoir contrôler l'épidémie chez ces plus jeunes, puisque même si le risque est plus faible dans cette population-là, il y aura quand même des gens qui vont avoir besoin d'assistance respiratoire. Il y en aura peu. Et il faut absolument s'assurer qu'on ne soit pas en saturation comme ce qu'on a pu être dans certaines régions. Et donc il faut contrôler ce pic. Et pour contrôler ce pic, le plus efficace, ce sera les mesures barrières. Donc il faudra garder certaines mesures barrières, le lavage des mains, porter un masque dans les transports en commun par exemple, éviter les accolades, les embrassades pendant cette période de 2-3 mois. Donc les gens seront déconfinés, mais ils devront respecter, selon nous, certaines mesures barrières pour être sûr de pouvoir contrôler ce pic qui va avoir lieu dans cette population peu à risque. Et l'autre chose qu'il va falloir absolument mettre en place, c'est la protection de la population qui va rester confinée, en particulier les gens qui sont dans les EHPAD, les gens qui seront chez elles et qui auront besoin d'être visités tous les jours, puisque ce sont des gens qui sont en situation de dépendance. À ce moment-là, il faudra s'assurer que les gens qui vont s'occuper de ces personnes-là soient à la fois appliquent les mesures barrières, mais aussi puissent être testés régulièrement Et comme vous avez environ 1,4 million de personnes qui s'occupent des personnes âgées dépendantes, vous devez déjà avoir un certain nombre de tests qui sont consacrés à ces personnes-là.
Merci beaucoup Martin Blacher. Je rappelle que vous êtes médecin et cofondateur d'une société d'expertise sur la santé qui propose une hypothèse sur le déconfinement que vous venez d'expliquer de façon parfaitement claire et d'où il ressort qu'on risque bien de passer un véritable été sans se toucher, mais avec l'espoir de se retrouver très bientôt quand même, enfin plutôt à la rentrée si je l'ai bien compris. Merci infiniment Martin Blacher. Tout de suite, on retrouve notre brigade.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.
Et je salue Anaïs Bouissou du service économie d'RTL.
Bonjour.
Question d'un chef d'entreprise, Anaïs. J'ai besoin d'un prêt pour faire face à la crise. On m'a parlé d'un prêt garanti par l'État. Comment le demander? On s'y perd un peu dans tous les dispositifs. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un prêt garanti par l'État, hein?
Oui, c'est un prêt que vous demandez à votre banquier pour lequel l'État se porte caution. Plus de 100 000 entreprises l'ont déjà demandé. Tous les professionnels y ont droit, dirigeants de petites boîtes, grands groupes de milliers de personnes, artisans, micro-entrepreneurs, start-up. Pour l'immense majorité des entreprises, celles qui ont moins de 5 000 salariés, l'État sera votre garantie à hauteur de 90%. En clair, vous demandez 10 000 euros de prêt, eh bien l'État garantit au banquier qu'il versera à votre place jusqu'à 9 000 euros au cas où vous ne pourriez pas les rembourser vous-même.
Comment fait-on pour demander ce prêt pour le coup?
Alors, vous contactez votre banquier qui vous indiquera précisément les justificatifs dont il a besoin. Oui. Le prêt pourra couvrir jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires avec un taux proche d'un prêt à taux zéro. Et les banques s'engagent en général à vous répondre en 5 jours. Précision qui a son importance. Plusieurs représentants d'entreprises se plaignent car certaines banques ont le refus facile, si vous voyez ce que je veux dire. Elles ne jouent pas tout le jeu. Sachez qu'en cas de refus, déjà la banque doit dire pourquoi. Ensuite, rien ne vous empêche de vous tourner vers une banque concurrente. Voir si besoin, vous pouvez adresser une réclamation au médiateur du crédit. Sur internet, vous tapez médiateur crédit, le site apparaît tout de suite. Il y a un formulaire spécialement conçu pour les refus de prêt. Vous le remplissez, vous donnez le nom de la banque qui pose problème et vous le renvoyez à l'adresse mail indiquée en fonction de votre département. J'ai fait le test, hein, tout est expliqué. Une médiation rapide se mettra en place.
Et par ailleurs, on sait que généralement, faire jouer la concurrence, ça marche très bien. Une question d'Éric sur notre Facebook RTL. Un patron peut-il me licencier si je suis en alternance ou du moins a-t-il le droit de ne pas me payer? Alors, c'est deux questions en une, hein, oui.
Oui, si Eric est apprenti, il a beau être en train d'apprendre son métier, il reste salarié de son entreprise, donc non, on ne vire pas un apprenti d'un claquement de doigts et non, on n'arrête pas de le payer du jour au lendemain.
D'accord.
Les seuls cas qui justifieraient peut-être un licenciement, c'est une faute avérée du salarié ou un licenciement économique, encore faut-il que l'entreprise en informe les autorités. L'autre possibilité, vous pouvez être mis au chômage partiel au même titre que les autres salariés. À l'heure actuelle, l'activité partielle concerne quand même 1 salarié sur 4 en France. Dans ce cas-là, même en tant qu'apprenti, vous n'êtes pas viré, vous êtes en pause le temps que l'activité redémarre. Et surtout, vous continuez bien évidemment d'être indemnisé.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou du service économie d'RTL. On retrouve...